Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h. D'abord l'info avec le journal. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Noël est entre nos mains. Et donc vraiment, nous devons être redoublés de vigilance. Limiter les contacts avec d'autres foyers.
L'appel d'Emmanuel Macron au lendemain des annonces de son Premier ministre. Il appelle donc les Français à la vigilance au moment de Noël pour éviter une recrudescence de l'épidémie.
Les stations de sport d'hiver devraient pouvoir ouvrir le 7 janvier. Elles espèrent malgré tout sauver la saison.
Des voleurs qui avaient du goût, ils ne dérobaient que des grands crus. Un réseau démantelé, butin estimé 5 millions d'euros.
Le Maroc, quatrième pays arabe à normaliser ses relations avec Israël aux manettes. Donald Trump qui, jusqu'au bout, veut peser sur la scène proche-orientale, nous dira Didier François.
Et puis Mediapro et la Ligue de foot professionnelle ont trouvé un accord pour rompre le contrat qui les unit. La chaîne Téléfoot va s'arrêter. Après le Covid, c'est la double peine pour les clubs de foot qui s'inquiètent énormément pour leur avenir.
La tendance météo avec Anissa. Alors, comment ça s'annonce, ma chère Anissa, pour demain ?
Eh bien, c'est un début de week-end arrosé. Voilà pour le programme avec de la pluie demain matin sur une grande partie du pays. Attention aux inondations dans le sud-ouest avec 4 départements en vigilance. Je vous donne tous les détails
et
à la fin du journal.
Nouvelle.
C'est pas sûr.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Emmanuel Macron appelle donc les Français à la responsabilité au lendemain des mesures annoncées par son Premier ministre.
Mesures qui ont un peu de mal à passer puisque nous allons devoir notamment nous passer de cinéma, de théâtre et de musée et que nous ne pourrons pas réveillonner le 31 décembre. Depuis Bruxelles, le président s'est voulu compréhensif mais ferme.
Noël est entre nos mains. Il y a beaucoup de règles et je sais qu'elles vous pèsent au quotidien qui sont mises en place avec vraiment cette volonté de vous protéger par le gouvernement et toutes celles et ceux qui mettent en œuvre ces décisions sur le terrain. Mais le plus important, c'est ce que chacune et chacun d'entre vous fait chaque jour. Le port du masque, le respect des gestes barrières et l'attention, y compris quand vous êtes dans des moments familiaux ou amicaux. Maintenant, on sait que ce sont ces moments, quand on se relâche, qu'on ne fait plus attention, c'est dans ces moments qu'on diffuse le virus. Et donc vraiment, nous devons être redoublés de vigilance, limiter les contacts avec d'autres foyers. Évidemment, se retrouver, mais moins que d'habitude pour Noël, moins nombreux. Et d'être beaucoup plus attentif à l'autre et à soi.
Emmanuel Macron ce matin à Bruxelles, au micro Europe 1 d'Isabelle Horry.
Et si le monde de la culture est encore sous le choc des annonces d'hier, les professionnels de la montagne, eux, commencent doucement à retrouver un peu d'espoir.
Oui, parce que le gouvernement envisage d'autoriser la réouverture des remontées mécaniques en station le 7 janvier. Bien sûr, si les conditions sanitaires le permettent, c'est Jean Castex qui l'a annoncé à la mi-journée. Pour la plus grande satisfaction du maire de La Plagne, dans la vallée de la Tarentaise, il est également président de l'Association nationale des stations de montagne.
Sauf problème sanitaire majeur, mais le 7 janvier, on aura la possibilité d'ouvrir nos remontées mécaniques. Et ça veut dire que derrière, on va pouvoir relancer la commercialisation des séjours depuis le mois de janvier, en continuant sur février, mars et avril. C'est vraiment un grand pas en avant et on est vraiment très satisfaits. Le travail mené en commun a porté ses fruits. Les stations et tous les acteurs économiques seront indemnisés. Les moniteurs seront indemnisés sans problème. Les commerçants seront indemnisés. Les entreprises de remontée mécanique, on n'aura pas de dépôt de bilan. Le gouvernement a revu cela. On est plus que soulagés. Pourquoi ? Parce que là, c'était vraiment un écosystème qui était mis à mal. On a beaucoup travaillé et on a été entendu et surtout écouté et compris.
Le président de l'Association nationale des stations de montagne, Jean-Luc Bock, joint pour Europe 1 par Marguerite Lefebvre. Et ça va faire moins plaisir aux stations françaises. Les stations de ski de Catalogne, région espagnole frontalière de la France, annoncent qu'elles vont rouvrir lundi.
Oui, notez que la réouverture de la Tour Eiffel, programmée pour mercredi prochain, est reportée jusqu'à nouvel ordre. Les visiteurs qui avaient déjà acheté des billets pour des visites entre le 16 décembre et le 6 janvier seront évidemment remboursés.
L'impact économique de cette crise que nous vivons est colossal. On le sait. Pourtant, l'OFCE, le très sérieux observatoire français des conjectures économiques, assure que la croissance va repartir dès l'an prochain, plus 7,1%. Malheureusement, Olivier Samin, ça ne suffira pas à effacer le choc.
Oui, à la fin d'année prochaine, l'économie française sera encore 1,4 point en dessous du niveau qui était le sien avant l'irruption du virus. L'allègement des contraintes sanitaires et les mesures du plan de relance vont permettre, certes, à l'activité de rebondir fortement en 2021, plus 7,1%, mais pas au point d'annuler le plongeon historique de cette année, plongeon que l'OFCE voit s'aggraver par rapport à ses précédentes prévisions, compte tenu des effets du deuxième confinement. L'activité économique, selon lui, reculera de 9,5% cette année. L'an prochain, certains secteurs devraient tirer leur épingle du jeu, le bâtiment notamment. Mais ceux qui ont fortement souffert continueront à souffrir, l'industrie aéronautique, l'automobile, l'hôtellerie et la restauration, et 180 000 emplois seront détruits du fait de faillites d'entreprises. L'OFCE voit le taux de chômage fortement augmenter. Il devrait atteindre 10,6% de la population active à la fin de l'année prochaine. Et pour éviter une déflagration sur l'emploi, le gouvernement sera tenu de prolonger l'activité partielle, dont la facture atteindrait 10 milliards d'euros l'an prochain.
Les précisions d'Olivier Samin du service Écho d'Europe 1. La nuit dernière fut longue et studieuse à Bruxelles, mais ça valait le coup.
Un peu comme d'habitude, c'est toujours long et studieux à Bruxelles. Les 27 ont abouti à une série d'accords, une réduction d'au moins 55% de leurs émissions de CO2 d'ici 2030. Ils ont également sauvé le plan de relance européen, c'est important, qui était bloqué par la Hongrie et la Pologne.
Et ils ont aussi décidé de sanctionner les actions illégales et agressives de la Turquie en Méditerranée, dont on a parlé ici à nombreuses reprises, notamment contre la Grèce et Chypre.
Dans l'actualité également, on reparle de Donald Trump. Ça faisait longtemps, tiens, qui réussit à convaincre un nouveau pays arabe de normaliser ses relations avec Israël.
Et ce pays, c'est le Maroc. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Encore une fois, Didier, le président américain a œuvré en coulisses au profit de son ami Netanyahou.
Eh bien oui, c'est bien Donald Trump qui a directement négocié avec le roi Mohamed VI le rétablissement des liens diplomatiques entre le Maroc et Israël. C'est lui qui en a fait l'annonce par un tweet, confirmé aujourd'hui par un communiqué du palais marocain promettant une normalisation de ses relations avec le gouvernement israélien dans les meilleurs délais. Alors concrètement, ça devrait se traduire dans les jours prochains par un échange formel d'ambassadeurs entre Tel Aviv et Rabat. Alors c'est pas vraiment surprenant, faut bien le dire, car même si elles restaient relativement discrètes, les relations entre le royaume chérifien et l'État hébreu ont toujours été excellentes. Mais pour ne pas heurter une partie de son opinion marocaine publique, le roi a hésité à franchir le pas de la reconnaissance officielle. L'ambiguïté était satisfaisante, en sortir présentait un risque. Donald Trump lui a donc fait une proposition qu'il ne pouvait pas refuser, parce qu'elle était inespérée. En échange de cette normalisation avec Israël, eh bien les États-Unis, ou en tout cas son président en activité pour encore quelques semaines, reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.
Oui, ce qui est un vieux rêve marocain, expliquez-nous ça.
Alors absolument, c'est une revendication qui remonte à 1976, quand l'Espagne décide de quitter cette ancienne colonie sur le littoral atlantique. Eh bien le Maroc prend immédiatement la relève, déclenchant un conflit avec des tribus sahraouis indépendantistes regroupées dans le Front Polisario. Alors depuis 1991, l'ONU propose qu'il soit organisé un référendum d'autodétermination pour décider de l'avenir de ce territoire. Évidemment, Rabat n'est pas très enthousiaste à l'idée de voir son annexion remise en cause. Et dans cette affaire, un blanc-seing des États-Unis, c'est évidemment un soutien de choix.
Vous m'étonnez. Merci, mon cher Didier. La chronique et l'œil de Didier François, c'est évidemment tous les soirs dans le journal de 19h.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 19h10 avec Isabelle Millet et le démantèlement donc d'un réseau de voleurs de grands crus.
25 personnes interpellées en Gironde, en Dordogne et dans la Loire. Leur cible de bonnes et même de très bonnes bouteilles, Stéphane Place.
Oui, cette série de casses très ciblées débute il y a un an et demi, en août 2019, chez des négociants en vin ou encore dans un hypermarché à la cave réputée, ici dans la banlieue bordelaise. Et ce ne sont pas les caméras de surveillance qui freinent les ardeurs de ces cambrioleurs, qui ne frappent pas au hasard hein, des caisses entières de crus prestigieux embarquées en quelques minutes dans des fourgons ou camions faussement immatriculés. Clairement, ces voleurs passent à l'action après de minutieux repérages. Le directeur interrégional adjoint de la police judiciaire de Bordeaux, Patrick Léonard.
Des professionnels, des délinquants d'habitude, puisqu'ils savent déjouer les systèmes de sécurité et ils vont dans des entrepôts où sont entreposés des vins de grande qualité. Manifestement, ils répondent à des commandes parce qu'ils vont chercher des choses bien précises. Un éventail de ce qui se fait de mieux, hein, Château Yquem, Pétrus, du Cru Beaucaillou, Château Margaux et même des Bourgognes, Bourgogne et Conti. Si on met bout à bout tous les préjudices de tous ces casses, on approche les 5 millions d'euros. On a retrouvé une petite partie du butin. Hein. Dans nos endroits de perquisition, on a retrouvé 600 bouteilles. 600 bouteilles, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais quand c'est des grands crus, ça peut avoir une valeur très importante. On a même des Mathusalem, donc 6 litres, pour ceux qui ne connaissent pas. Forcément, quand c'est des grands crus, ça a des prix aussi qui peuvent monter assez vite.
Ce soir, 14 personnes ont été présentées au juge d'instruction bordelais qui dirige ces investigations.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Et si vous aimez les bons vins, je dis ça, je dis rien. Ce soir, il y a 200 millions d'euros à gagner à l'euro-million.
Eux avaient débouché le champagne il y a un an. Autre ambiance aujourd'hui, Mediapro et la Ligue de foot professionnelle, c'est terminé. Cette fois, le divorce est consommé.
Oui, la Ligue qui doit donc trouver en urgence un nouveau diffuseur. Elle qui a décidé de casser donc ce contrat qui la liait à Mediapro après des mois de conflit. Il faut dire que ce dernier refusait de respecter ses engagements financiers.
Oui, la décision va entraîner l'arrêt de la chaîne Téléfoot qui revendique 600 000 abonnés, qui était toute neuve dans l'univers audiovisuel. Elle continuera toutefois de diffuser la Ligue 1 jusqu'à la fin du mois.
Et en tout cas, ce qui se passe, c'est dramatique pour les clubs qui craignent de ne pas pouvoir s'en sortir financièrement. Pour l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Rudy Garcia, après le Covid, il ne manquait plus que ça.
On a non seulement pas touché la fin des droits qu'on aurait dû toucher, et en plus, on n'aura pas le milliard pour lequel on s'était peut-être arrêté plus tôt, pour pouvoir commencer cette saison 2021 dans les meilleures conditions. Donc, c'est encore un coup dur, on va dire, pour le football français, ça c'est sûr. On n'a pas de billetterie parce que malheureusement... L'autre coup dur, c'est le Covid et c'est pas de spectateurs dans les stades. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est vraiment pas une bonne nouvelle, quoi.
Effectivement, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Rudy Garcia, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, au micro Europe 1 de Maxime Choche. Et puis en handball, à l'Euro féminin, les Françaises qui sont tenantes du titre sont à un match d'une qualification pour les demi-finales. Elles doivent battre la Russie. Ça se passe en ce moment et pour l'instant, les Bleus sont menés 19 à 17.
Merci Isabelle. Passez un bon week-end.
À lundi.
À lundi, 18h. La météo avec Anissa qui va passer un bon week-end, mais pluvieux parce
sous la couette,
qu'Anissa
ouais.
Va nous annoncer un temps humide et nuageux pour ce samedi.
Et avec du sud-ouest jusqu'au nord-est en passant par le massif central, de la pluie demain sur le golfe du Lion. Le ciel est couvert et humide aussi demain matin. Les éclaircies arrivent au bord de la Grande Bleue demain après-midi grâce au vent. La tramontane souffle jusqu'à 100 km/h. Pendant qu'à l'est, la journée est humide, à l'ouest, à l'arrière de la perturbation, demain après-midi, du Cotentin à la Nouvelle-Aquitaine en passant par les Pays de la Loire et la Bretagne, eh bien, le ciel alterne entre nuages et éclaircies. C'est là vraiment que la journée sera la plus agréable. Demain matin, il fait plus doux. Vous vouliez des bonnes nouvelles, j'en ai quand même trouvé dans toute cette grisaille. Nous n'avons plus de gelée matinale, Julien. 0 à Gap, 2
bien.
À Nîmes, 3 à Aurillac et Strasbourg, 4 à Clermont-Ferrand, 8 à Brest et Paris et 10 à Biarritz, ça c'est le matin. Et dans l'après-midi, c'est stationnaire avec 6 à 14 degrés, 6 pour Aurillac, 11 à Paris et 14 à Quimper et Toulon.
Bien, passez un très bon week-end, vous aussi, Anissa.
Également, Julien.
Bon repos,
à lundi.
Belle course de Noël, si jamais vous arpentez les rues de Paris.
On va donner un petit coup de main au Père Noël, ouais.
Un petit coup de main au Père Noël, merci Anissa.
Bonne soirée.
Dans quelques secondes, le débat du Club des Idées spécial Noël, justement, ce soir. Comment cuisiner de bons plats sans contaminer toute la famille? On en parlera avec nos invités. D'abord, la carte blanche offerte ce soir à Eric Emmanuel Schmitt.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes un peu. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Eric Emmanuel Schmitt.
Bonsoir Julien.
Alors mon cher Eric Emmanuel, vous n'êtes pas un habitué des complaintes. Cependant, vous tenez ce soir à exprimer votre lassitude. Pourquoi ?
Certains se plaignent d'avoir une vie de chien. Ceux-là d'ailleurs ne connaissent pas mes chiens. D'autres se plaignent d'avoir une vie de merde. Moi, je me plains d'avoir une vie de poule. Attention, pas une poule au sens de cocotte, la jolie femme qui monnaie ses charmes, telle la nana de Zola, mais une vraie poule, à l'œil fixe, aux pattes crottées et à la conversation un brin répétitive.
Une vie de poule? Mais expliquez-nous ça, pourquoi Eric Emmanuel Schmitt?
Depuis la Covid, mon agenda ressemble à celui de Galipette, la poule de mes voisins. Elle ouvre les paupières dès que le soleil se lève et les ferme quand il se couche. Entre-temps, travail. L'activité de Galipette est parfaitement réglée. Ponte et alimentation la journée, sommeil la nuit. Pas de dîner, de souper, de réception, de danse. Ni sortie, ni théâtre, ni concert, ni opéra, ni cinéma. Tout ce que l'homme a inventé pour s'élever au-dessus de la poule. Bref, depuis l'épidémie, je suis passé de la cour à la basse-cour.
Et d'après vous, avec cette crise sanitaire, nos nuits ont donc plus changé que nos jours ?
Exactement. Qu'est-ce que la nuit pour les humains ? Un espace de liberté, un espace sans regard, un espace à l'abri, un espace de jouissance où peuvent s'épanouir nos désirs, nos goûts, notre intimité. Si le jour nous rend semblables, la nuit nous différencie. Le jour nous socialise, la nuit nous individualise. D'ailleurs, les rêves durant notre sommeil répondent à cette même fonction, comme l'a montré le grand neurologue Michel Jouvet. Nos rêves nous reprogramment individuellement, alors que l'ordre public, ses devoirs, ses tâches et ses lois nous atomisent.
Oui.
Durant cette crise sanitaire qui supprime nos soirées, pour les limiter au repos, nous souffrons tous d'être moins nous-mêmes, donc tout simplement d'être moins. Notre équilibre psychique court des risques.
Alors ça, c'est pour le constat, mais que faire alors, Eric Emmanuel Schmitt ?
Ne pas devenir une poule, mais faire semblant d'être une poule.
Simuler ?
Ce qui nous arrive est très intéressant, Julien. Pendant des siècles, guerre et épidémie contraignaient les gens à s'insérer dans la communauté. Pour nous, Européens du XXIe siècle, la paix et l'efficacité de la science avaient permis d'oublier le collectif et de développer un individualisme forcené. Et voilà que la peur change tout, il n'y a de salut qu'en commun. Nous prenons une leçon de politique et de philosophie. Nos dirigeants sont donc obligés d'encadrer nos vies comme celles des poules pour sauver le poulailler. Mais nous, à la différence des poules, nous pouvons comprendre et accepter ce que l'on nous impose.
Oui.
D'où ma nouvelle doctrine, poule le jour, mais pas poule la nuit.
Eh ben, c'est une collection de bons mots. Expliquez-nous ça, Eric Emmanuel.
Je besogne le jour, mais ma nuit ne se réduit pas à une récupération pour turbiner le lendemain. Au soir, si je respecte le couvre-feu physique, je refuse le couvre-feu mental. Si je respecte la limitation des rencontres matérielles, je multiplie les rencontres que permettent les arts, la littérature, le cinéma, la musique. J'augmente la dose, Julien, par rapport à d'habitude. Et encore, je me sens bien privilégié quand je pense aux poules de nuit.
Les poules de nuit.
Celles qui travaillent la nuit, Julien. Les restaurateurs,
ah,
les comédiens.
Bien sûr.
Les musiciens, oui, les artisans et les techniciens du spectacle. Tous ceux dont je fais partie, puisque je dirige un théâtre à Paris, qui sont empêchés de gagner leur vie et tout simplement empêchés d'être.
Oui.
Ceux-là sont sacrifiés. Et leur sacrifice ne sera diminué, écourté, que par notre obéissance. Soyons donc des poules dociles, ou plutôt simulons des poules dociles pour en finir au plus vite.
Message de sagesse ce soir. Merci infiniment, Eric Emmanuel Schmitt.
Merci.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h22 ce soir dans le débat du Club des Idées. Comment passer les fêtes en famille, sans risque et sans danger? Nombre d'invités, distance à table. Faut-il aussi se faire tester avant d'aller rendre visite à ses parents ou grands-parents? Après les annonces du Premier ministre Jean Castex que vous avez suivi en direct avec nous, vous vous posez sans doute beaucoup de questions ce soir sur la bonne méthode à adopter. On sait désormais que nous pourrons circuler à partir du 15 décembre sous couvre-feu. Alors quels sont les bons gestes justement à adopter? Eh bien on va en parler ce soir jusqu'à 20h avec nos invités. Jean Viard, sociologue et directeur associé au CEVIPOF. Bonsoir Jean Viard.
Bonsoir.
Avec Guylaine Arabian, bonsoir, chef étoilé, désormais propriétaire du restaurant Les Petites Sorcières dans le 14e à Paris. On en parle également avec le professeur Djilali Annane, bonsoir,
bonsoir,
chef du service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Je voudrais d'abord vous faire partager quelques propos pris sur les vifs à Toulouse par notre reporter Benjamin Péter.
J'ai prévu de le faire en famille avec mes parents. 4 adultes et 2 enfants. On va en profiter à fond. Pour le moral, ça va faire du bien de retrouver la famille. Boire un petit coup et voilà.
Et ben juste en petit comité avec mon fils aîné qui va venir de Paris, avec sa femme et ma petite fille, leur fille. Ça va être un bon repas, ça va être voilà, des guirlandes, des boules, de la lumière. D'autant que je ne les ai pas vus depuis 6 mois, donc ça va faire du bien.
On va chez nos enfants respectivement à Clermont-Ferrand et à Strasbourg, bien gentiment. On craignait ne pas pouvoir les voir, alors du coup ça nous a fait plaisir d'entendre hier qu'on avait au moins ce droit-là.
Je suis partie à l'étranger pendant un an, je suis rentrée, j'ai pas eu l'occasion de revoir beaucoup ma famille. Du coup, ouais, c'est l'occasion aussi de les revoir un petit peu parce qu'ils me manquent. C'est quand même la magie de Noël.
On va se faire un challenge Top Chef. Il y en a un qui fait l'entrée, l'autre le plat principal et l'autre le dessert. Donc on va passer toute l'après-midi ensemble à le fabriquer dans la bonne humeur et la joie et on va le déguster après. Tranquillement, les cadeaux, le sapin et c'est tout. Et c'est déjà pas mal.
Ça fait du bien, Jean-Vier, ce qu'on vient d'entendre. C'est un antidote à l'amorosité, cette perspective de passer Noël en famille.
Ben oui,
Je veux dire, Noël, c'est la fête des enfants, c'est le début de l'hiver, c'est, en plus, en général, il y a une semaine de vacances, voilà. Non, mais c'est tout ça. Alors, après, ben, évidemment, ça va pas être tout à fait comme ça cette année, hein. Ça va être une année galère, mais toute l'année, elle est galère, hein. Je veux dire, moi, je crois qu'il faut dire ça. Mais tu vois, ce que je crois qu'il faut dire, moi, je dis tout le temps, je dis, d'abord, on fait tout ça pour sauver des vies. Donc, c'est utile, vous faites quelque chose de bien, quoi. C'est idiot de dire ça, c'est pas pour faire le préchi-précha, mais, on a un peu tendance à oublier qu'on se bat pour sauver des vies. On a sauvé sur la planète des dizaines de millions de vies. En France, sans doute, des centaines de milliers de vies de personnes âgées. Oui. À Noël, qui est le moment de la naissance, mais qui est quand même un moment aussi un peu philosophique pour une partie des gens, se rappeler qu'on se bat pour la vie, je pense que ça donne des choses plutôt positives. Et puis, du coup, ben, peut-être que la consommation va être un peu moins importante, il y aura un peu moins de monde. Mais bon, si vous voulez, bien sûr, ça va être différent, mais pensons quand même que Noël, c'est aussi le moment des gens tout seuls, oui, c'est aussi ces moments-là. Donc essayons de garder tous ces liens pour que ça ne soit pas non plus uniquement un moment trop triste.
Quoi. Bien, belle entrée en matière. Merci Jean Viard. On va évidemment parler de toutes les questions que vous vous posez dans le détail, que ce soit sur les tests, sur la façon de cuisiner, de se comporter, le nombre de convives à table. D'abord, professeur Djilali Annane, peut-être une réaction à ce qu'on a entendu. Ça rend heureux l'idée de se retrouver en famille. Et ça, c'était important dans le contexte actuel.
Ah oui, on retrouve là complètement l'esprit de Noël. Et on vit collectivement une très longue apnée sociale et culturelle depuis mars. Et donc, un peu, les mammifères que nous sommes, on a besoin de remonter la surface pour reprendre un peu de respiration. Et c'est ça, Noël. Donc, c'est pour ça que ça va être un moment crucial pour permettre, justement, pour nous permettre collectivement de continuer à batailler contre ce virus.
Professeur, on va se dire les choses clairement. Il n'y a pas trop de risques que l'épidémie reparte avec ces mouvements de population qui s'annoncent pendant 15 jours ?
Ah, écoutez, beaucoup comparent ça à ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Thanksgiving. Je crois que c'est une situation très différente. Je crois que Noël est appréhendé par les gens de façon vraiment très différente. Et on sent qu'il y a de l'organisation. On sent que les gens s'organisent, qu'ils réfléchissent, comment ils vont se retrouver, où, combien, comment on va se répartir la tâche. Et on sent toute cette préparation. Et moi, ça me donne énormément confiance dans le fait que ça va bien se passer.
Même question d'ordre général, Guylaine Arabian. D'abord, est-ce que vous êtes contente de peut-être retrouver certains de vos proches à Noël et est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire pour le réveillon ?
Déjà,
non, pas dans l'assiette, on va en parler.
Non, mais déjà, je pense que je ne bougerai pas. J'ai mon fils et ses deux enfants, donc mes petits-enfants, qui depuis le premier jour de confinement, tous les jours, m'ont appelé en Skype.
Oui.
Tous les jours, à telle heure. Donc, on racontait la journée. Donc, mon confinement s'est bien passé. Ça a continué après, ça a repris. Et là, il continue toujours. Donc, les listes de Père Noël se sont faites comme ça. Je leur envoie des cadeaux par des petites choses et ils reçoivent des choses.
On a besoin de cette petite parenthèse.
Mais je pense que pour les enfants, c'est nécessaire parce qu'on leur a dit, on ne va peut-être pas pouvoir se retrouver. Mais bon, on va faire un Noël différent. Et puis après, vous verrez bien. Et peut-être si on peut se retrouver, on se retrouvera. Mais j'avais arrangé les choses différemment. J'envoyais des petits colis à mon fils, à ma belle-fille, aux enfants. Et ils étaient toujours contents de voir ce que le Père Noël avait pu apporter en avance en se disant, peut-être qu'on ne pourra pas se retrouver. Voilà.
De toute façon, il ne peut pas attraper le Covid, donc il sera au rendez-vous. Si des enfants nous écoutent, ne vous inquiétez pas, il sera là. Voilà, belle entrée en matière avec mes invités. On se retrouve dans quelques secondes et on va se poser vraiment pour répondre à toutes les questions qui peuvent être les vôtres ce soir. À tout de suite, 19h28.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, écoutez cela. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Voilà, ça aussi, ça donne le moral. Frank Sinatra, Jingle Bells, c'est une chanson pour passer les fêtes en famille et se donner un peu le moral. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, mais on va essayer aussi, dans le débat du Club des Idées avec nos invités, de répondre à toutes les questions que vous posez. Tiens, moi j'en ai une pour vous, pour commencer, professeur Djilali Annane, pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous êtes chef du service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Est-il judicieux de se faire tester avant d'aller retrouver sa famille? Et si oui, quel test utiliser? Parce qu'on sait que les antigéniques ne sont pas fiables à 100%. Je crois qu'il y a 40% de faux négatifs. Est-ce qu'il faut choisir un PCR? Et est-ce que si le PCR est négatif, je suis tranquille, ça veut dire que je ne suis pas contagieux?
Alors d'abord, oui, je crois que c'est du bon sens. Hein. Honnêtement, si on va réveillonner avec des proches avec lesquels on n'a pas l'habitude de vivre, alors je pense que c'est raisonnable de se faire dépister. Il ne faut pas se faire dépister une semaine avant. Hein. Il faut se faire dépister quelques heures avant, 24 heures avant, ou au mieux le matin.
Et plutôt test, PCR.
Plutôt PCR, mais les tests antigéniques, ça sera bien aussi. Je crois qu'il ne faut pas... chaque test a une performance qui n'est pas tout à fait la même. La PCR est plus performante que le test antigénique, mais la performance du test antigénique dans cette situation-là reste satisfaisante.
Alors le ministre de la Santé dit quand même, attention, hein, faut pas que ça entraîne un sentiment d'immunité de se faire tester avant. Ça veut dire qu'il faut quand même respecter, une fois qu'on rencontre sa famille, qu'on est à table le soir de Noël, le 24 pour ceux qui le fêtent, les gestes barrières, la distance, être pas trop nombreux. 6 par exemple à table, ça vous paraît judicieux comme jauge ?
Écoutez, moi je n'ai pas de chiffres ou de nombres fétiches. Et donc je crois que...
Ça dépend de la taille de l'appartement peut-être aussi.
Je pense que ce qui compte c'est la distanciation physique. Le nombre est à adapter à la situation et au contexte local. Et moi je le dis, nul mieux que chacun d'entre nous ne connaît notre contexte familial et notre foyer. Et donc c'est à nous de mesurer, on est informé, on a l'information, on doit respecter certaines distances, les gestes barrières. Eh bien, en fonction de notre foyer, on voit qui on invite et comment on organise les choses.
On va profiter de la chef étoilée Guylaine Aramian qui est à mes côtés pour vous donner aussi quelques conseils. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner ? Comment on peut faire ces courses intelligemment ? Parce qu'évidemment, ça rebat un peu les cartes, ce contexte-là. Il y aura le couvre-feu d'abord à 20h, donc il faudra bien s'organiser pour faire ces courses, pour bien manger, parce qu'on a quand même envie de bien manger, pour ces fêtes et ce réveillon. Qu'est-ce que vous conseillez, vous ?
Je crois que je serai à quelque chose que je peux anticiper la veille ou même l'avant-veille. Je ne sais pas, je ferais peut-être une poule au pot en mettant des poulardes de Bresse, par exemple, pour faire plus festif. Comme ça c'est prêt. On a cuit tous les légumes, on a fait son riz, on met quelques truffes. Et puis, ça arrive, il y a les champignons, la sauce. Et ça, vous pouvez le réchauffer. Et en même temps, vous pouvez être avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Et tout le monde en mange. Il n'y aura pas de soupe à la grimace. Bien sûr, on ne passe pas à travers les huîtres, un peu de saumon fumé, ça c'est prêt. Il faut essayer de s'alléger la tâche.
Oui.
Parce que
pour profiter
d'un moment qu'on peut avoir, qui nous est donné et qui va être très court, et en profiter pleinement sans que ça devienne vraiment une galère, quoi, de faire lever les belles-filles, les gendres et tout ça. Tout le monde dans la cuisine, tout serré, c'est pas possible.
Oui.
Donc je pense qu'il faut aller vers des choses très 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 relatives, tout ce qui peut se réchauffer, on peut se faire un Waterzooi, on peut se faire des tas de choses.
Et on privilégie l'agriculture et les produits français.
Bien évidemment, je ne vais pas vous dire d'aller en Chine, vous chercher un petit truc à manger.
Pose la question quand même. Et on n'aura pas de problème d'approvisionnement. Vous parliez de la truffe, alors c'est des produits nobles qui coûtent un certain prix, mais s'il y a bien un moment dans l'année où on peut se le permettre, c'est au moment des fêtes de fin d'année, il n'y aura pas de problème d'approvisionnement.
Il y a des truffes. C'est facile de se mettre une petite râpure dessus, juste pour faire joyeux. Comme on peut se mettre une petite feuille d'or sur un dessert, même sur une tarte aux pommes, on met 3 feuilles d'or. Et hop, ça fait Noël. Il faut vraiment être imaginatif et surtout partir sur des choses où il ne faut pas, à la dernière minute, commencer à galérer.
Jean Viard, d'abord, est-ce que ça suscite un certain appétit, ce qui vient d'être dit par la chef Guylaine Aramian ?
Moi, je suis un grand admirateur du Waterzooi. Je trouve que c'est excellent et en plus, c'est pas cher. Donc, je vais le dire parce que un Waterzooi, c'est un plat pas cher et délicieux.
Comment vous appréhendez-vous ce moment si particulier où les gens vont se retrouver, Jean Viard ?
Ben, si vous voulez, alors, voyez, moi, par exemple, si j'avais tous mes enfants et petits-enfants, on serait 24. Hein. Donc, forcément, on va être 6 ou 7, plus les enfants. On est trop nombreux, j'ai 6 enfants, 10 petits-enfants. Donc, il y a pas mal de familles comme ça. Et encore, sans parler des grands-parents, il en reste quelques-uns. Donc, forcément,
très importante, Jean-Pierre. Comment est-ce qu'on choisit ? C'est impossible de choisir les membres de sa famille.
Non, mais donc, du coup, nous, on a dit, ceux qui habitent pas loin, ils viennent là, et puis les autres, on se verra une autre fois, voilà. En gros, on a pondéré avec la distance transport, si vous voulez. Bon. Mais, parce qu'il faut encore, j'ai une grande maison, c'est pas ça, mais on peut pas être tous là. Donc, on a dit, ceux qui habitent à côté, qu'on voit régulièrement, etc., ceux-là, on sera 7, on sera un de plus que le règlement, je vais dire. Mais bon, voilà, c'est ceux-là, on les voit assez souvent, donc on considère que c'est un
donc,
groupe
c'est comme ça
que
doivent un peu réfléchir et s'organiser les Français qui vont être dans ce choix.
Je donne pas de conseils à tout le monde, vous me demandez comment j'ai fait, je vous réponds. Moi, je suis pas là pour dire comment tout le monde doit faire, mais je pense que chacun est un peu là-dedans. Alors, évidemment, il y a des choix difficiles et tout ça, je le comprends. comprends très bien, parce que Noël, au fond, c'est un moment où on est avec même ceux des frères et sœurs qu'on n'aime pas le plus, quoi. On se rassemble ensemble parce que c'est quand même autour des enfants. Noël, oui. C'est des cadeaux. Donc, je veux dire, normalement, je dirais, on invite tout le monde. On peut dire les choses comme ça. Bon, ben, cette année, ça va être un peu différent. Je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui vont se réunir le soir. Ils feront peut-être un autre repas le lendemain midi. Oui. Ça se faisait déjà beaucoup d'avoir deux repas avec peut-être pas tout à fait les mêmes.
J'ai envie de dire, c'est presque la bonne nouvelle d'avoir le tonton qui nous ennuie un peu, passer une certaine heure, ou la cousine qu'on n'a pas envie de voir. Au moins, on sera centralisé sur la famille nucléaire, comme on dit, c'est-à-dire la famille la plus proche. Professeur Djilali Annane, question un tout petit peu plus sérieuse. Ça peut paraître un peu bête comme question, mais est-ce qu'il faut privilégier les portions individuelles plutôt que le grand buffet ?
Honnêtement, je crois qu'il ne faut pas vouloir mettre des raisons scientifiques et médicales à toute chose. Je pense qu'il faut que ce moment exceptionnel, on le garde exceptionnel, et que pour cela, on se soulage, on évite de se donner des complications, se dire il ne faut pas que je fasse de buffet.
Je pose la question un peu sérieusement, parce que je ne veux pas être rabat-joie, mais par exemple, j'ai vu que dans une église aux États-Unis, il y avait une personne malade qui a contaminé 50 participants lors d'un buffet, parce qu'il y avait des petits fours et que les uns et les autres se sont donné les choses. Et par conséquent, alors c'était peut-être un super contaminateur, mais par conséquent, il y a eu un cluster qui est né de cette
On ne peut pas incriminer le buffet. Vous voyez, ça n'est pas le buffet, c'est la circonstance. Vous avez un individu malade, contaminant, ensuite, probablement pendant cette période-là, une proximité, on a fait tomber les masques, on a échangé, on a parlé. Et en plus, si vous avez un super contaminateur, effectivement, il peut contaminer tout le monde dans la soirée. C'est pour ça que c'est du bon sens de se tester avant d'aller. Ça veut dire que si on est positif, on décline l'invitation, bien sûr, on n'y va pas. Et se tester et être négatif ne veut pas dire que ça veut dire qu'on peut abandonner le masque et les gestes barrières.
Voilà. Et on donc, aère bien les pièces.
On arrête les pièces, on garde le masque tant qu'on ne mange pas, y compris quand on est en famille et qu'on va discuter, puis on va le retirer, quand on va s'asseoir à table, qu'on sera plus en mouvement et qu'on va déguster le repas.
Bien, et on va continuer de déguster nous aussi dans quelques secondes avec la chef Guylaine Arabian qui est toujours à mes côtés. 19h39, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h41, on continue dans le débat du Club des Idées à parler des fêtes de fin d'année, comment les passer le mieux possible, en famille, sans prendre de risques. On en parle avec nos invités. Puis on parle aussi gastronomie avec la chef étoilée Guylaine Arabian, qui est à mes côtés dans le studio d'Europe Soir. Guylaine, vous disiez tout à l'heure, on privilégie plutôt les plats mijotés, comme ça on garde le temps qu'on a avec ses proches, avec sa famille, puis aussi par souci de simplicité. Donc ça, c'est pour le plat de résistance. Au dessert, qu'est-ce que vous
proposez
de nous concocter ?
Au dessert, où on a déjà succombé à la bûche qu'on peut s'acheter, glacée ou autre, qui est aussi une bonne façon de ne pas toucher les choses, de les ramener à la maison, de les mettre et de les découper. Et puis je disais, on peut la faire
soi-même si on est courageux aussi.
C'est pas une question de beaucoup de travail, mais là aussi, ça vous prend du temps, ça vous fait travailler les choses, ça vous fait manipuler les choses. Moi, dans un contexte comme celui-là, je vois bien, moi, pour le restant, comment je fais. J'essaye de faire le moins de gestes possible autour de la nourriture pour justement avancer et que ce soit facile aussi pour les clients en arrivant et réchauffer. Parce que je pense que c'est à partir de là aussi qu'est la contamination.
Vous faites le click and collect ?
Oui.
Enfin,
j'ai un menu qui change tous les jours entièrement.
Ça fonctionne
correctement. Ouais. Moins bien qu'au premier confinement, mais correctement. Les gens sont très, très inquiets là.
Très, très inquiets, c'est ce que vous ressentez ?
Oui. Ouais. Beaucoup plus. La façon d'aborder les choses n'est pas du tout la même. L'esprit n'est pas pareil.
Et est-ce que vous avez le sentiment que la perspective, encore une fois, de se retrouver à Noël, c'est une petite lueur d'espoir ? Les gens vous en parlent au quotidien ?
Pas du tout. Personne ne me parle de Noël. Personne ne me parle de Noël et personne ne m'a demandé si je faisais quelque chose de spécial pour Noël. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore décidés.
Oui. Oui.
Ils ne savent pas.
Jean Viard est également avec nous, sociologue, directeur associé du Cevipop. Jean Viard, de quelle manière toutes ces précautions qu'on évoque ce soir peuvent-elles changer durablement nos habitudes et nos relations sociales avec la famille notamment ?
Bah, c'est difficile à dire, hein, parce que c'est très juste ce qui vient d'être dit. Je pense que le premier confinement, on a été tellement sidérés, c'était tellement imprévisible qu'on nous enferme chez nous, c'est vraiment un truc auquel on n'avait jamais pensé, quoi. Je veux dire, on allait pouvoir prévoir beaucoup de catastrophes, mais alors celle-là, on n'y avait pas pensé. Cette fois-ci, c'est plus dur, parce que c'est une répétition, il y a beaucoup de dépression, il y a à peu près 20% des gens qui sont déprimés. Alors heureusement qu'on a le vaccin qui arrive, c'est-à-dire que encore il y en a plein qui y croient pas, qui veulent pas se vacciner, mais si vous voulez, on a une petite lumière, on pourrait dire passer le soir de Noël, mais on voit l'étoile du berger qui s'allume, donc ça nous aide à avancer, parce que sinon ça serait terrible, quoi. Et donc ça, il faut, si vous voulez, c'est ça qui est compliqué dans cette situation. Alors qu'est-ce qui va rester? C'est qu'on, vous voyez, moi je pense que le masque ou le fait de se laver les mains, le fait par exemple qu'il y ait du savon dans les toilettes des universités, moi quand j'y étais, ça me rappelle pas en avoir vu. Oui. On peut penser qu'il peut y avoir des évolutions dans l'hygiène, que le fait de mettre un masque par exemple en période de grippe, ça peut être quelque chose qui peut être, si c'est bien géré par la sécu, si on fait des pubs à la télé, tout ça. Oui. On peut avancer sur ces choses-là, si vous voulez.
Mais après, ça c'est pour dans les rapports qui va autour, mais j'allais dire, Jean-Vierre, est-ce que demain on arrêtera de se serrer la main, de se faire la bise? Rendez-vous compte, la bise, je me souviens pas la dernière fois que j'ai fait une bise, moi. C'est
non, moi non plus, mais en même temps, je me rappelle, par exemple, quand j'étais plus jeune, on faisait jamais la bise aux garçons, et c'était devenu une habitude. Moi, j'embrassais la plupart des garçons, pas tous les garçons que j'ai rencontrés, mais enfin, je veux dire, c'était devenu assez familier, même des gens dont on était amical, mais, vous voyez, donc là, la bise s'était énormément développée, en tout cas entre hommes, alors ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans. Donc tout ça, ça change. Oui, non, je pense qu'une partie des choses, on va les retrouver. La première fois qu'on va serrer la main à quelqu'un, on va avoir l'impression de faire quelque chose d'un peu curieux. J'ai pas le sentiment que ça va définitivement changer les choses, mais c'est difficile à dire parce qu'on s'est replié sur le foyer, on s'est replié sur le local, et c'est ça au fond le confinement. Et il va rester des choses, je pense, dans ce repli, en tout cas pendant un certain temps. Et puis il faut pas oublier aussi tous ceux, mais en même temps, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Une explosion de joie. Pensez aux 2 500 000 étudiants. Je veux dire, ils en peuvent plus. Surtout, ils sont souvent dans 9 mètres carrés. Donc, je pense que vers avril-mai, il va y avoir une explosion de bonheur de se toucher, si on peut dire les choses comme ça, de se voir. Et peut-être que ça va, vous voyez, enlever toutes les barrières. Alors, ça va dépendre si vraiment le vaccin se répand. Mais là-dessus, je suis plutôt confiant.
Et c'est vrai que ce que représentent les fêtes de fin d'année dans le cœur des Français est énorme. Hein. Je regardais les sondages IFOP en 2019, par exemple, montraient que 84% des Français, ce qui comptait le plus pour eux à Noël, c'était de passer du temps avec ses proches. Et 56% disaient que ce qui leur pesait le plus avec ce confinement light qu'on vit en ce moment, c'était l'absence des êtres chers. Alors peut-être une réaction, professeur Djilali Annane, à ce qui a été dit tout à l'heure. On évoquait la bûche avec la chef Guylaine Arabian. Il y a le professeur Salomon qui a dit un truc un peu particulier quand même, qui a suscité la polémique. Il a préconisé de ne pas manger avec papy mamie et de les laisser dans la cuisine avec leur part de bûche. D'abord, comment vous avez perçu cette sortie et votre réponse ce soir? Parce que j'imagine que ça n'est pas ce que vous préconisez, vous.
Oui, non, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, ce moment-là est un moment où l'on cherche à se retrouver, pas à se cloisonner et à se séparer. Donc, je crois que... et aussi à se retrouver entre générations. Hein, et c'est ça qui est aussi la caractéristique de Noël par rapport à la nouvelle année, par exemple. C'est qu'on est là entre générations et on est là dans un cercle familial et dans un cercle de confiance. Et ben ça, c'est effectivement pas compatible avec le fait de dire on va se cloisonner et s'éclater dans la maison. Donc je pense que c'était une maladroit probablement.
On respecte un plan de table particulier, un peu plus d'un mètre, on essaie de faire attention à ça quand même.
Moi je crois que ce à quoi il faut faire attention, c'est effectivement, je pense pas que le risque majeur est à table.
Oui, les mains, dit Hélène Arabian. Il faut faire attention aux mains, évidemment.
Il y a l'hygiène des mains, mais je pense que le risque n'est pas principalement quand on sera à table, assis. Non. Le risque va être avant.
Et après.
Et après. Parce qu'avant et après, on va être en mouvement, en conversation parfois rapprochée, par petits groupes éventuellement. Et c'est là où il faudra être très prudent. C'est là où il faudra porter le masque, je pense. C'est très important. Et puis pareil, dans la fin de soirée, où on aura tendance à être un petit peu fatigué,
un peu joyeux. Boire avec modération, mais
absolument.
Une bonne bouteille.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qu'on peut boire d'ailleurs, Guylaine Arabian?
Ah, mais moi, je suis champagne.
Oui.
Champagne, et que la fête commence. Une fête qu'on va devoir domestiquer pour la première fois de notre vie. On va devoir domestiquer une fête et on en est les responsables. Donc, que chacun boive, même si on se dit bah, ça va pas avec le plat, mais tant pis. Moi, je me prends ça parce que c'est la fête et c'est le bonheur.
Je crois qu'il faut, faudra peut-être être un peu moins épicurien et peut-être plus attaché à ce qui ferait vraiment plaisir à l'ensemble des convives.
Voilà, soyons là, moi, heureux je crois pendant qu'il faut ce un moment peu si particulier.
Oui, et je crois qu'il faut se simplifier les choses. Et, ouais. et je reviens, il faut se simplifier les choses. Et s'il faut, ben, on met deux ou trois choses différentes et que chacun...
Et chacun sa flûte et son verre à pied. On voilà. met son petit nom dessus voilà. comme ça, on est
pénard. Exactement, hein exactement. Bien. Et chacun a son breuvage, si ça fait plaisir, on le même pour tout le monde. Mais je crois que ce soir-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment en profiter parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le refaire.
Merci à tous les trois de nous avoir donné la pêche et puis des clés aussi pour passer un Noël avec le moindre risque possible. Merci,
merci
à tous
vous.
Les trois et bonne fête de merci. Fin d'année.
Europe 1, Julien Bucher.
19h49, vous restez avec nous dans quelques secondes. On plonge dans les archives. Et ce soir, on va vous raconter la folle histoire du journal Le Monde. Oui, oui, vous allez voir, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bucher.
19h52, la suite d'Europe Soir et du Club des Idées. Et on plonge maintenant dans les archives d'Europe Soir avec la naissance d'un journal emblématique, Le Monde. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle Le Jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir, Manoké.
Bonsoir.
Alors, ce soir, nous allons remonter le temps. 11 décembre 1944, c'était il y a 76 ans, jour de la création du journal Le Monde, au moment où la France sort de la guerre.
Oui, et à cette époque, aucun journal ne trouve grâce aux yeux du général de Gaulle. Pour le héros de la libération, il est hors de question que les titres qui existaient sous l'occupation allemande puissent toujours être vendus dans les kiosques. Une ordonnance oblige ces titres à disparaître. Et en 1944, la France a donc besoin d'un nouveau journal de référence.
Et c'est d'ailleurs un homme de la Résistance que de Gaulle va choisir pour fonder ce nouveau quotidien.
Oui, le général a un critère. Trouvez-moi un directeur dont le passé de résistant et la compétence de journaliste ne peuvent être remis en cause. Ce sont ses mots. Il choisit donc Hubert Boeuf-Méry, un journaliste entré dans la résistance en 1943. Il a même été lieutenant des forces françaises de l'intérieur. Pour le nouveau quotidien, le journaliste pense à plusieurs titres. L'univers, le continent, finalement, ce sera le monde. En 1944, la rédaction s'installe boulevard des Italiens à Paris. Hubert Boeuf-Méry imprime sa marque. L'une de ses anciennes secrétaires se souvient à l'occasion des 50 ans du journal.
Le seul qui ait jamais été appelé le patron par l'ensemble du personnel, c'était Boeuf-Méry.
C'était quand même quelqu'un peut-être un peu moins accessible que les autres, un peu distant, fait d'une autre époque.
Le patron donc instaure d'ailleurs la conférence de rédaction debout pour être plus efficace selon lui. Une matinée d'écriture et à 13h, les chaises des bureaux tremblent. Au sous-sol, les rotatives du journal démarrent. Le Monde, c'est déjà 80 rédacteurs, une vraie ruche. Et dès sa naissance, le journal accorde une grande place à l'actualité internationale avec des correspondants sur plusieurs continents. C'était l'une des volontés de Gaulle que le titre rayonne au-delà des frontières. D'ailleurs, à l'époque, Le Monde est le quotidien des élites du pays.
C'était un journal de l'intérieur et de l'extérieur qui était quand même assez froid. On venait pas ici pour plaisanter, mais en même temps, je crois pouvoir dire que les journalistes qui étaient engagés à ce moment-là étaient conscients qu'ils arrivaient dans un grand journal. Et la meilleure des preuves, c'était que sur la place de Paris, nous étions, et ils étaient, si on parle des journalistes, les moins bien payés dans la profession.
Étonnant ça comme confidence.
Voilà, peu importe le salaire, en 1944, travailler pour Le Monde, c'est mettre un pied dans une rédaction de prestige.
Et dès le début de l'histoire du journal, Romane, les relations entre le général de Gaulle et le fondateur sont, comment dirais-je, compliqué.
Oui, exactement. Hubert Boeuf-Méry refuse catégoriquement d'être aux ordres. Et plus les années passent, plus le journal va avoir un regard critique sur la politique du président. À partir des années 60, Le Monde devient même un journal d'opposition au gaullisme. Un sujet évoqué sur Europe 1. En 1974, 4 ans après la mort du général, Hubert Boeuf-Méry répond à Étienne Moujotte.
Qu'est-ce que vous avez gardé comme image forte du général de Gaulle ?
Je ne peux pas dire que je l'aimais. Et encore moins qu'il me fascinait. Je n'avais vraiment, et dès le début, je n'ai jamais eu d'atome crochu. Le Monde a toujours pu passer, Dieu sait les lettres et les protestations que j'ai reçues, pour un journal d'opposition. L'indépendance, la liberté, c'est de pouvoir répondre suivant les circonstances, tantôt être d'accord et tantôt ne pas l'être.
Et c'est donc le 19 décembre 1944 que les Français découvrent le premier numéro du journal dans les kiosques.
Oui, exactement, et rien à voir avec le monde de 2020. Le premier numéro, c'est une page recto verso, aucune photo, rien que du texte. Un format austère, mais déjà, il y a ce fameux titre en lettres gothiques. En tout cas, même 76 ans plus tard, le nom d'Hubert Boeuf-Méry est toujours en tête de chaque numéro. Et son bureau, le bureau du patron, trône au 6e étage de la rédaction.
Et vous l'avez dit, la particularité du Monde aussi, c'est que c'est un journal qui sort à la mi-journée et qui ne sort pas le matin comme les autres.
Exactement.
Merci infiniment, Romane, pour ces archives.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, dans un instant, le rappel de l'info. Et juste après, Émilie Mazoyer, comme chaque soir. Salut Émilie.
Salut Julien, comment ça va?
Ça va plutôt bien, c'est vendredi, alors tout est permis, on a le sourire. Quel est le programme ce soir?
Ah mais, programme de luxe! Parce que vendredi, ici, on ne se moque pas de vous, alors c'est Madame Catherine Ringer qui est l'invitée de musique. De quoi, me demanderez-vous? Eh ben déjà, on l'adore.
Lerita Mitsuko, trop cool.
Mais oui, et elle sort aujourd'hui. Donc Catherine Ringer chante Lerita Mitsuko, un magnifique concert à la Philharmonie de Paris. 19 chansons, double CD, DVD, il y a une édition collector aussi en vinyle. Enfin, on va parler musique et concert, ça fera du bien à tout le monde.
Bien, eh bien, vous l'embrassez pour moi. J'ai souvenir d'une belle soirée pour le Sidaction où elle avait chanté magistralement bien, comme toujours. Merci, ma chère Émilie. On vous suit dans quelques secondes, donc avec Catherine Ringer. 19h57, dans un instant, le rappel de l'info. Passez un très bon week-end. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi, 18h, pour Europe 1 soir. Et d'ici là, évidemment, écoutez Le Monde Changé. Ciao, ciao.